On vous connaît comme comédien. Je vous ai découvert comme auteur dramatique dans une pièce que vous jouez au Théâtre des Riches Clercs, Le propre de l'homme. Alors, vous interviewez, c'est un plaisir multiple, puisque vous êtes auteur, acteur, mais aussi personnage. Donc, on va essayer de faire une interview où on s'adresse à chacun d'entre eux.
D'accord.
Première question à l'auteur. Écrire ainsi pour vous, est-ce que cela est plutôt stimulant ou est-ce que c'est une contrainte? Est-ce que vous avez sur votre épaule, quand vous écrivez, l'acteur qui vous dit « prends garde, ne va pas si loin »
C'est les deux. Il y a une liberté qui naît de cette contrainte, en fait, comme on dit dans le théâtre. L'acteur sait qu'il peut faire certaines choses. Il y a des moments où il dit à l'auteur « Attends, t'es peut-être un peu prétentieux, là. » Mais c'est un mélange de liberté et de contrainte. Et il y a une exigence que l'acteur peut avoir parfois vis-à-vis de l'auteur, et l'auteur peut mettre l'acteur dans des défis invraisemblables.
Alors, vous avez créé un personnage qui est un personnage qu'on rêve de rencontrer, qui est un professeur. Il est professeur en dernière année d'humanité.
C'est
et
ça, oui.
Il est à la fin de sa carrière. Et c'est en quelque sorte une leçon testamentaire qu'il donne à une classe. Le personnage, vous avez choisi d'écrire ce personnage-là pour quelle raison?
Alors, au départ, c'était un projet qu'on avait avec Éric de Starck, de faire quelque chose sur le propre de l'homme. Bon, on a d'abord commencé à réfléchir sur le rire, et puis on s'est dit, oui, bon, le rire, c'est pas une matière évidente, d'essayer d'être au moins, de faire un peu d'humour ou de l'esprit sur le rire, ça devient quelque chose... Et puis, on a continué à réfléchir, et à un moment donné, on s'est dit, mais dans le fond, le propre de l'homme, c'est le langage. Et à partir de ce moment-là, tout à coup, le professeur s'est imposé. Un professeur de français est quelqu'un qui, évidemment, est au cœur du langage et de sa transmission. Enfin, un professeur de langue, quelle que soit la langue. Parce qu'il traite à la fois de la littérature, de la complexité de la langue, de toute la culture. Et puis, il est le lien entre le patrimoine, le passé, et les jeunes esprits en formation qui lui sont confiés.
La classe devant laquelle il se trouve est une classe qui se renouvelle chaque année. Il est devant la dernière classe à laquelle il va pouvoir transmettre son savoir. Et cela fait de votre personnage un personnage qui est non pas triste, mais qui a l'impression que son projet n'est pas abouti et qui ne sera jamais abouti. Est-ce que c'est, on peut considérer que ça peut être une des leçons qu'on peut tirer de ce personnage?
Oui, d'autant plus que c'est mon partenaire squelettique.
Oui, qui est reste, un squelette, qui est un vrai squelette.
Qui est un squelette qui reste seul en scène à la fin. Oui, on peut considérer ça dans la mesure où, de toute façon, cet homme s'est certainement amélioré d'année en année. Et que cette classe-là est peut-être particulièrement vivante, et qu'il doit cesser son activité au milieu de l'année scolaire, puisqu'il a atteint l'âge de la retraite, que ça le rend fou, il trouve que c'est un scandale. Il aurait peut-être voulu aller jusqu'au bout, et il a toujours eu un rêve secret qui était le degré zéro de l'échec, d'arriver à ce que toute une classe réussisse au terme d'une année passée avec lui. Et donc, il les laisse à un moment historique, où l'humanité est, pour la première fois depuis qu'elle prend note de son histoire, menacée en tant qu'espèce. Et tout ça se conjuguant, il est effectivement dans un moment où, pour la première fois, cet homme assez pudique, qui fait des numéros invraisemblables parce qu'il estime qu'il faut être ludique dans l'enseignement, pour la première fois va oser dire « Je vous aime ». J'ai aimé tous ceux qui se sont assis sur ces bancs. Et c'est ça qui, à mon avis, est le moteur de la pièce, le moteur de ce personnage, et le moteur qui devrait animer tout enseignant. Aux origines de l'école pour tous, les maîtres, c'était les gens qui venaient de la paysannerie, de la classe ouvrière, et qui participaient à un mouvement social, et qui se disaient c'est une révolution, tout le monde va savoir lire et écrire, c'est d'une importance capitale. Et c'était des hommes et des femmes qui étaient considérés et considérables. Et aujourd'hui, à la suite de tout ce qu'on peut imaginer, de ce qui nous est arrivé sur ces 80 ou 100 dernières années, pour des raisons à la fois sociales, politiques, économiques, bah c'est plus si reluisant que ça d'être professeur. Bon, à la limite, être un grand professeur d'université, ça peut encore poser quelqu'un. Mais quand on est professeur dans un collège, instituteur, alors que ces gens ont une mission sacrée à remplir. Ils accompagnent chaque parent dans le fait de faire grandir un être, un humain. Et ils sont chargés de transmettre le savoir. Or, pour des raisons de crise qu'on peut très très bien comprendre, il y a de plus en plus de gens qui se réfugient dans cette profession en se disant « Bon, c'est pas le Pérou, mais c'est un salaire qui tombe tous les mois. » Et moi, j'ai toujours envie de dire, bon, et j'ai vécu en mon enfance, comme je suis un homme vieillissant, des maîtres, j'ai vu des maîtres en face de moi qui se tenaient droit, même quand je les détestais parce qu'ils étaient trop sévères ou parce que je trouvais qu'ils étaient nuls comme acteurs, parce qu'il y a quand même un acteur chez chaque prof. Mais enfin, ils avaient une dignité, ils se tenaient droit, quoi. Et j'ai deux filles qui ont respectivement 19 et 23 ans, et à travers leur cursus, j'ai rencontré de temps en temps une belle personne qui se tenait droit, mais souvent j'ai vu des gens qui étaient là dans l'alibi, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, on en a 30, alors que déjà avec 15 ce serait dur, on a envie de leur dire sortez la tête du sac. Si vous faites ce métier, il faut aimer la matière que vous enseignez et il faut aimer les élèves, sinon il y a quelque chose qui ne se fait pas. Et fatalement, c'est peut-être là qui est le nœud du problème. Et on peut tourner avec toutes les réformes autour de ça. Tant qu'on n'aura pas rejoint ça, j'ai eu des maîtres fabuleux qui m'ont changé la perspective parce que ça ne les empêchait pas de me mettre des cols et des zéros quand je me comportais comme un petit sauvage. Mais il y avait de la tendresse dans cette sévérité. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a aucune tendresse dans certains laxismes. C'est un magistère, hein, le prof, donc c'est une figure du père ou de la mère qui enseigne, donc qui, au niveau de ce qu'on peut recevoir de base scientifique. Ça commence par l'apprentissage des chiffres et des lettres, et puis ça se prolonge ça peut aller jusqu'à la philosophie. Et notamment pour ce personnage, Sans le copier, mais j'ai regardé énormément sur Internet de bandes et écouté des bandes de l'enseignement de Gilles Deleuze, qui était un maître. Mais on l'écouterait pendant des heures. Or, il parle de Spinoza, il parle de Nietzsche, il parle de choses extrêmement compliquées et difficiles, mais avec une limpidité, une clarté. Et là, on se dit, voilà, un homme qui est un reflet de Socrate par-dessus les siècles, quoi. Ce désir de faire grandir chacun et de renvoyer chacun à sa propre conscience.
Votre professeur est aussi un professeur bibliothèque, en ce sens qu'il fait référence à des auteurs. Rimbaud figure au mur de sa classe, mais il cite aussi des philosophes. Il cite aussi ce président des États-Unis,
Abraham Lincoln
qui clame « Si vous ne voulez pas d'éducation, essayez l'ignorance ». On a envie, en sortant du spectacle, d'aller se replonger dans sa propre bibliothèque pour aller relire les auteurs que vous citez. Comment vous avez-vous choisi ces auteurs ? En tant vous-même qu'auteur de la pièce.
Alors, c'est très simple. Alors, il y a deux choses. Ça, c'est amusant, parce que j'ai été élevé par une grand-mère qui avait des citations en permanence. Tout La Fontaine y passait, et pas seulement, Champfort. Donc, elle avait une maxime pour toutes circonstances. Donc, quelque part, c'est quelque chose qui vient de mon enfance. Et puis, par la suite, j'ai commencé à me passionner pour les poètes, Et quand j'avais 17 ans, je me baladais avec les œuvres complètes de Rimbaud, du livre de poche dans une de mes poches, de ma veste, et dans l'autre, j'avais Paroles de Prévert. Et il est arrivé un temps où je me suis dit, dans le fond, quand une chose a été définie par un poète, elle est tellement bien énoncée que pourquoi chercher midi à 14 heures ? Et très souvent, mon entourage me dit, oh oui, avec tes citations, t'as tellement raison, et c'est tellement fatigant. Puis, mais c'est pas moi qui ai raison, ce sont les poètes qui ont raison. Et ce prof est comme ça, évidemment. Et quand il sort, il dit une toute dernière citation, celle de Nicolas Boileau. Avant donc que l'écrire, apprenez à penser. Selon que notre idée est plus ou moins obscure, l'expression qui la suit, ou moins nette, ou plus pure. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Et je trouve que c'est bon, voilà, c'est vraiment la dernière ligne de ce qu'il avait à leur dire, quoi, de son testament. C'est son testament. Il cite Boileau.
Ma dernière question s'adresse en même temps à l'acteur, à l'auteur, mais plus au personnage. La mise en scène de la pièce est réalisée par Éric de Starck. Comment ça se passe le dialogue à trois, Jacques Viala l'auteur, Jacques Viala l'acteur, et Éric de Starck le metteur en scène ?
Alors, c'est une vieille histoire parce qu'il y a 18 ans, j'ai mis en scène Éric dans un spectacle que nous nous étions permis de coécrire avec Victor Hugo et qui s'appelait Notre-Dame de Paris. Et donc, où Éric racontait tout seul, en jouant tous les personnages, Notre-Dame de Paris. Bon, c'était un digest, évidemment. Et ça, c'était une partie du spectacle. Et une autre partie du spectacle, c'était des commentaires sur Hugo et notamment sur sa vie sexuelle, qui est invraisemblable. Et on s'était toujours promis de faire ça dans l'autre sens, parce qu'on avait pris tellement de plaisir à faire ça. Et il se trouve que, bon, Éric a participé à l'écriture, et simplement il a pas voulu en assumer la paternité avec moi en me disant, écoute, non, c'est ton texte, alors qu'il a quand même apporté pas mal de choses, notamment ne serait-ce que par la façon dont il a pu couper les redondances. Et moi, j'ai décidé à un moment que je n'étais plus qu'un acteur et que c'était lui qui avait la baguette de chef d'orchestre et que c'est lui qui orchestrait. Et donc, j'ai accepté presque toutes ces coupures, sauf une ou deux, mais là, c'est uniquement pour des raisons purement idéologiques, entre guillemets, parce que nous ne sommes pas enfermés dans une idéologie ni l'un ni l'autre. Mais j'ai été un acteur extrêmement souple parce que j'avais une confiance totale en lui et je crois que le spectacle est ce qu'il est grâce à lui, quoi.
Jacques Viala, je vous remercie pour cette interview, je vous remercie pour la pièce que vous avez écrite, pour la manière dont vous la jouez, et puis pour le personnage que vous avez créé qui nous donne vraiment à tous à rêver et à se souvenir pour les plus anciens des maîtres qu'ils ont rencontrés et à souhaiter aux plus jeunes qu'ils les rencontrent aussi dans un avenir plus ou moins proche. Merci Jacques Viala.
Merci à vous, c'était vraiment très agréable. Merci beaucoup.